Auditrice, bonsoir. Nous sommes le lundi 11 mars 2024. Il est 20h et comme tous les soirs lundi à cette heure-ci, eh bien, on joue la prolongation. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de On joue la prolongation. Bien content de vous retrouver après un petit interlude de vacances bien mérité. Ce soir, on va parler football, bien sûr. On s'approche du terme de la phase classique de Jupiler Pro League. Il se passe plein de choses. Il y a les Coupes d'Europe qui reprennent, les deuxièmes actes en Conference League et en Ligue des Champions cette semaine. On va parler de tout ça, de plein de choses aussi, avec à mes côtés. Celui qui va nous parler de tout ce qui se passe en dehors du terrain, mais aussi sur le terrain. Il est fondateur de l'agence de marketing sportif Sportinize. Il s'agit bien sûr d'Alexandre Demeter. Salut Alex, comment vas-tu?
Bonsoir Sam. Ah, ça va super, on se retrouve après des petites vacances, comme tu l'as dit.
Tu vas nous parler de tes vacances.
Tu veux que je te parle de mes vacances?
Un peu plus tard, mais je sais que tu... Toi, tu mets toujours à profit tes vacances.
Tu me prends au dépourvu. Mais...
Je sais que tu mets à profit tes vacances pour approfondir ta connaissance du panorama européen. Et je suis sûr que tu as visité des stades.
Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Effectivement, je suis parti en Italie, mais si tu veux, on le garde.
On va en parler tout à l'heure, on aura justement de quoi en parler. Au programme ce soir, on va parler, comme d'habitude, on va avoir notre Belge de la semaine, celui qui, selon nous, selon toi et selon moi, a fait l'actualité de la semaine. On va parler bien sûr de la Jupiler Pro League, parce que là, on va faire le point à une journée de la fin seulement de la phase classique. On va parler play-off, champion, play-down aussi. On vous dira tout ce qu'il faut savoir sur cette 29e journée et se projeter un peu sur la 30e et dernière journée de phase classique. Rien n'est joué. Il y a encore en tout cas quelques zones d'ombre, que ce soit essentiellement en haut, mais en bas aussi, tout le monde n'est pas sauvé. On va parler également football international avec le choc du week-end en Première Ligue, une course au titre qui est assez surprenante, enfin surprenante. Tout le monde dit Manchester City, meilleur club du monde. Il se trouve qu'ils sont troisième, à un point seulement d'Arsenal. Mais ils ont fait match nul contre Liverpool ce week-end. Et on a trois équipes en un point. Il reste 10 journées encore en Première Ligue, donc tout est encore faisable. Mais c'est vrai que c'est une fin de championnat assez haletante. Ces clubs sont également concernés par les Coupes d'Europe, donc il va falloir gérer également tout ça. Coupe d'Europe, il en sera également question, puisqu'on va parler évidemment de la fin des huitièmes de finale de Ligue des Champions, qui est prévue demain et mercredi. On a donc le dernier volet, puisque la l'UEFA a la bonne idée de splitter tous ces huitièmes de finale sur plusieurs semaines. On l'a dit, on le sait, c'est pour la beauté du sport, mais aussi pour les pépettes qui rentrent, et puis la possibilité de diffuser plus de matchs en direct.
Mais
en
ça fait plaisir aux téléspectateurs.
Exactement,
aussi, évidemment.
Que nous sommes. Ça nous fait des soirées, ça nous fait plusieurs semaines de suite, avec un mardi, un mercredi. Et quand on est supporter de clubs qui ne sont d'autres clubs, de clubs qui ne sont pas concernés par la Ligue des Champions, et ben aussi, ça nous donne un jeudi. Ça va être le cas puisqu'on a les huitièmes de finale retour de Conference League, de Ligue Europa également, mais Conference League où deux clubs belges sont toujours en course. On va en parler. Ils n'ont pas fait le meilleur des départs possibles lors des matchs aller. Mais on ne sait jamais. Tout est encore faisable, au moins pour celui des deux clubs concernés que tu préfères, me semble-t-il. On parlera également marketing sportif au cours de la minute, Sportimize. Est-ce que tu peux nous donner quelques indices sur ce dont tu vas nous parler ?
Tu peux prendre ton maillot et on va aller à Los Angeles. Non pas pour retrouver Hugo Lloris, mais pour un autre sport. Avec un ballon orange.
Je vois.
Mais ce n'est pas celui que tu penses non plus.
Ah ou
pas le club que tu penses.
Ah d'accord. Los Angeles, ballon orange, et c'est pas le club auquel
Los Angeles, comme New York, c'est les deux seules villes aux États-Unis où tu as par sport, baseball, basketball, football américain, soccer, football classique aussi, et hockey sur glace, tu as deux franchises. C'est les deux seules villes qui ont ça. Donc, on a les Lakers et les Clippers. Et on parlera des Clippers. Justement.
Les Clippers. Eh ben, je suis impatient de parler un petit peu NBA. C'est vrai que c'est un autre sport que j'aime bien. Sans plus tarder, on va donner le coup d'envoi. Le coup d'envoi, c'est parti pour cette édition. Et on va commencer comme toutes les semaines par le Belge de la semaine. Alex, est-ce que tu as pu, je sais que tu as pu réfléchir, quel est ton Belge de la semaine ?
On l'a déjà évoqué et je le connais quand même depuis presque 7 ans entre-temps, car sa première défaite en tant que coach professionnel, j'étais l'adversaire, mais c'est Will Steele. Et Will Steele a fait 2-2 au parc, ça n'était pas inconnu.
Ça ne m'a pas échappé.
Mon cher Sam, en tant que grand fan du Paris Saint-Germain, mais Will Steele a quand même été faire 2-2 et jouer 2-2 au Parc des Princes avec son équipe du Stade de Reims, qui menait 0-1 après une bourde monumentale en défense parisienne. Finalement, le PSG en 2 minutes, ils ont refait leur retard. Et en deuxième mi-temps, contre toute attente, ça a quand même réussi à cadenasser le PSG et à choper un point. Et donc, Will Steele, ça fait plus d'un an et demi là, qu'il est coach du Stade de Reims. Il a fait une excellente saison l'année passée et cette année, ils sont de nouveau à la 9e place. Donc, avec un budget très modeste, avec des moyens très modestes aussi, ils remportent le Challenge Téléfoot, mais ils remportent le prix du public également. Parce que c'est un chouette football, c'est une chouette équipe, c'est sympathique et surtout, ça prend des points. Et il n'est pas mon seul Belge de la semaine, parce qu'effectivement, il est coach de cette équipe. Mais si on regarde un petit peu plus loin...
J'allais te le dire.
Voilà, dans son effectif, il y a d'autres Belges. On est à la radio, donc les guillemets, on ne les voit pas. Mais il y a d'autres joueurs qui sont passés par notre championnat.
Pas des moindres.
Donc, tu as Thomas Fouquet qui a joué à Gand, qui est arrière-droit. Tu as Thibaut Desmet, ex-Berscott, qui est arrière-gauche. Tu as Emmanuel Agbadou, qui est un des défenseurs centraux. Donc, trois anciens joueurs de Jupiler Pro League forme la défense et une bonne défense en Ligue 1.
Et j'ajouterais...
Ce qui est tout à fait fou d'ailleurs, en passant, parce que Berscott, c'est Gand et c'est Eupen.
Oui, et qui n'était pas aligné parce qu'il est blessé, il me semble, c'est Joseph Okumu, qui jouait le Kenyan, qui jouait à la Gantoise.
Tout à fait.
Qui joue à la Gantoise, qui fait aussi un super championnat.
Et dans les blessés, tu as Maxime Buzy aussi, un grand talent qui est passé par Parme et Charleroi.
Mais surtout, ça, c'est la défense.
Tout à fait. Et puis, tu as au milieu de terrain, tu as mon ami Teddy Thomas. Et tu as Yunia Ito, qui est en attaque. Bon, Darami, on n'en parle pas. Il a failli signer à Bruges il n'y a pas si longtemps. Mais en attendant, tu as quand même dans une équipe de base, tu as 5 anciens joueurs du championnat belge.
Et ça fait match nul au Parc des Princes.
Ça fait match nul au Parc des Princes, mais ça, Bruges l'a fait aussi il n'y a pas si longtemps. Donc, à la rigueur, en tout cas, c'était à domicile. Mais surtout, tu as une équipe attrayante, tu as un beau football, tu as une place au milieu du classement et tu fais une bonne saison avec ton Stade de Reims de nouveau, Will Steele. Donc, chapeau, notre Belge de la semaine.
Absolument. Et moi, je pense qu'il met c'est un bon coup de pub sur la Jupiler Pro League. C'est vrai que nous, on les connaît, mais en France, les gens sont surpris de constater. Notamment quand on pense à Teddy Thomas. Teddy Thomas, ça fait partie des... C'est un Français. Enfin, il est capitaine de l'équipe de Malte, mais il est franco-maltais. Et c'est donc le genre de joueurs, un peu comme Loïc Lapoussin, qui sont passés un peu entre les mailles du filet en France. Ils ont joué en deuxième division, ils ont joué au Red Star, ils ont joué... Et il y a eu l'éclosion et, ici en Belgique. Et c'est vrai que Teddy Thomas, il a un physique, il a une patte, une technique incroyable.
Une mentalité de dingue. Mais surtout, Teddy n'est pas passé par un centre de formation. Mmh. Et tu as énormément de joueurs qui passent par les centres de formation et même des équipes, peut-être pas UP aujourd'hui, comme on veut l'entendre, mais en tout cas des Sochaux, des Auxerre, des Guingamp, sont des équipes qui ont un centre de formation ultra performant. Et il y a énormément de joueurs qui passent par là, qui font carrière par la suite et qu'on n'y songe pas ou qu'on n'y prête pas attention. Mais ces joueurs ont été formés. Teddy n'a jamais été dans un centre de formation. Il a tout fait tout seul. Les seuls tests qu'il a eu de mémoire, c'était à Sochaux. Finalement, il n'a pas su les faire pour raison X, Y, Z. Et donc, il a fait sa carrière par hasard, presque, j'ai envie de dire, sur un bon test, sur son caractère, sur le mental. Et c'est comme ça qu'il a transité par Boulogne-sur-Mer de mémoire, ouais. Le Red Star, pour arriver finalement à l'Union Saint-Gilloise il y a quelques années et continuer sur cette lancée avec Malte et avec le stade de Reims maintenant. Donc, très belle carrière.
Très belle carrière. Et donc, c'est un petit peu... Will Steele, il a le vent en poupe et lui, il sait où aller regarder. Il se fie pas forcément à... On ne juge pas un livre à sa couverture et donc ce n'est pas parce que les joueurs viennent de Jupiler Pro League qu'ils n'ont pas le talent nécessaire pour réussir, drivé par un bon coach en Ligue 1. Mais par contre, il se peut fort que ce ne soit plus du côté de la Ligue 1 qu'on le suive l'année prochaine parce qu'il y a des rumeurs. Enfin, il y en a eu l'hiver dernier et lui, il se l'a semblé exprimer l'envie. Alors, c'est ça ce que je trouve super avec lui aussi, c'est que vous avez des coachs qui se voient un peu partout. Lui, il a clairement laissé entendre qu'il y avait un challenge intéressant en championship, donc en deuxième division anglaise, il serait tout à fait content de le relever. Et c'est vrai que ça dénote une mentalité assez particulière. C'est quelqu'un qui se connaît. Je ne sais pas s'il connaît ses limites, parce qu'il n'y a peut-être sans doute pas, mais dans le bon
quelles
sens
sont,
du terme. Voilà.
Parce qu'il est très très jeune.
Il est très jeune, mais au moins on sent que quelqu'un qui sait qu'il ne faut pas brûler les étapes. Certains se moquaient un petit peu de lui, dans le sens où on l'a vu, on le voyait un peu comme un entraîneur football manager, parce qu'il a dit il y a quelques années qu'il avait beaucoup 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 joué. Donc,
c'est le cas.
C'est le cas, voilà. Mais entre... Les clubs qui font beaucoup de data, lui qui disait ça, on a dit bon, bah, est-ce qu'il est si fort que ça? Est-ce que c'est... Bon, bah, il s'est formé, je ne sais pas dans quelle mesure jouer à Football Manager permet de se former beaucoup et permet d'être prêt pour être sur un banc de touche professionnel. Mais en tout cas, voilà un entraîneur au parcours atypique qui met du soleil sur la Ligue 1. Et oui. je ne connais pas ses limites.
Mais disons que les limites. Quelles sont les limites ? Un entraîneur en France, en Belgique, en Angleterre, tu as déjà trois profils tout à fait différents. Et un entraîneur, c'est multimodal aussi. Tu dois motiver ton équipe, tu dois pouvoir créer un groupe, tu dois tactiquement être à la hauteur pour développer les phases de jeu. Tu dois ensuite, une fois que ta tactique est en place, tu dois avoir cette vision de phase arrêtée, de reconversion, aussi bien offensif que défensif. Donc tu n'es pas dans un... Être entraîneur, c'est quoi ? C'est mille et une choses à la fois. Et donc, Will maîtrise énormément de ces choses. Et voilà, si Football Manager n'est pas non plus péjoratif, il y en a beaucoup qui jouent à ça, qui espèrent, mais il y en a certains qui, effectivement, ont joué à ça et ça leur a permis de développer leur savoir, de comprendre les tactiques et de développer leur propre style qui fonctionne au plus haut niveau.
Ouais. Eh ben, bravo à lui, on le suivra avec intérêt. Moi, je vais traverser la Manche. Pour trouver mes Belges de la semaine. Mon Belge de la semaine, c'est Kevin De Bruyne. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, pour le but qui a été marqué par Manchester City hier face à Liverpool. C'est une tactique qui ça a été confirmée. C'est Josh Stone qui a marqué sur un corner. Il a confirmé que ça avait été préparé à l'entraînement. Et donc, il y a un corner donc, frappé du droit, depuis la droite, si vous regardez le but de Liverpool, donc un corner sortant, mais que Kevin De Bruyne a frappé pas si sortant que ça, puisqu'il est venu au premier poteau, et il y a eu un travail de Nathan Ake, je crois, qui a fait un bloc, ou qui a même carrément dégagé le défenseur de Liverpool de l'épaule, pour que Josh Stone arrive lancé quasiment seul au premier poteau. Il est venu couper la trajectoire et il a marqué au premier poteau. Et donc c'est une tactique sur coup de pied arrêté qui avait été imaginée par l'entraîneur adjoint de Manchester City, qui a été répétée et qui a été gagnante lors de ce match. Au-delà de ça, Kevin De Bruyne, dont on sait qu'il a eu, il a été blessé la saison passée, il a mis un temps fou à revenir et à démarrer vraiment sa saison. Il en est, je crois, à 11 passes décisives, 11 assists depuis le début de l'année civile, toutes compétitions confondues. Il est impliqué dans 14 buts. Certes, Manchester City ne semble pas avoir le fast ne semble pas aussi brillant que l'année passée, mais ce n'est certainement pas de sa faute. C'est peut-être un petit peu devant qu'il faut aller voir où se trouvent les limites actuelles. Erling Haaland n'est peut-être pas aussi fantastique qu'il a été la saison passée. Mais en tout cas, Kevin De Bruyne revient à un niveau magnifique. Et c'est de bon augure sans doute pour ce qui démarrera le 14 juin, c'est-à-dire le championnat d'Europe des Nations. Le deuxième Belge de la semaine, parce qu'ils sont coéquipiers, c'est Doku. Doku qui est passé un peu par tous les états hier. Il est entré, il est monté au jeu. Il aurait pu marquer, il aurait pu donner la victoire à son club, mais il aurait surtout pu, et ça a été l'objet d'une polémique en Angleterre, il aurait pu concéder, il aurait dû concéder un pénalty. Il fait preuve de maladresse dans sa surface. Il a dégagé un ballon que convoitait McAllister. Il a effectivement touché le ballon, mais il a mis ses crampons sur le torse de McAllister, plein buffet, j'allais dire. Et l'arbitre n'a pas sifflé le pénalty. Jürgen Klopp a dit, si vous connaissez le foot, si vous êtes dans le monde du foot, vous savez qu'il y a pénalty. Si vous considérez qu'il n'y a pas pénalty, c'est que vous ne connaissez pas le football. Bon, c'est resté assez cordial entre Jürgen Klopp et Guardiola. Mais voilà, Doku, en tout cas, fait une belle saison. On l'a déjà dit ici, c'est compliqué de s'adapter, de passer du stade Rennais à Manchester City et de faire son trou dans la meilleure équipe du monde. Il le fait très bien. Lui aussi va être à surveiller dans les rangs belges lors de la prochaine échéance internationale, le championnat d'Europe des Nations, qu'on a aussi hâte de voir cet été. Voilà, c'était notre point belge de la semaine. On va rester bien sûr en Belgique, puisqu'on va maintenant aborder ce qui fait notre pain quotidien. Encore une référence à une enseigne belge. On va parler évidemment de la Jupiler Pro League. La Jupiler Pro League dont on jouait ce week-end la 29e et avant-dernière journée. Et à une journée du terme de cette phase classique, la suite des événements, c'est-à-dire la phase de play-off et de play-down, commence à se dessiner un petit peu plus clairement, tant pour le haut que pour le bas. On va commencer évidemment par la lutte pour le titre. On vous rappelle qu'au terme de cette phase classique qui comptait 30 journées, 6 équipes seulement seront qualifiées pour ce play-off. On prendra les points de chacune des équipes, on les divisera par deux et ces 6 équipes joueront donc 10 journées, 5 allées, 5 retours. Et donc, pour espérer gagner le titre, donc il reste 30 points à prendre. Et on va commencer donc par l'équipe en forme, vraiment dans le haut de tableau, l'équipe en forme de cette fin de saison. Ça nous permet de faire un coucou à Henri. Ce sont les Mauves, les Anderlechtois, qui avaient un très court déplacement à faire puisqu'ils se rendaient samedi à Molenbeek pour y affronter le RWDM. Et les choses se sont plutôt bien déroulées pour les hommes de Brian Riemer qui l'ont emporté 0-3 face à des promus qui savent, eux, que leur saison continuera au-delà de la prochaine journée puisqu'ils sont d'ores et déjà contraints de jouer le play-down. La première période d'Anderlecht, c'est au cours de celle-ci que les Mauves ont fait la différence. Vertonghen, Dreyer, Dolberg ont marqué 3 buts au bout d'une demi-heure de jeu. Je ne sais pas, Alex, si tu as pu suivre un petit peu le match, si tu as pu voir quelques images et ce que tu as pu penser de la partie. Et au-delà de ça, c'est vrai que les Anderlechtois qui restent sur 6 victoires consécutives et qui sont invaincus, je regardais en Jupiler Pro League depuis le 22 octobre et une défaite à Sclessin face au Standard, coucou à Steve. Depuis lors, ils n'ont pas perdu. Et c'est vrai que c'est l'équipe en forme. Et quand on se souvient, comme je l'ai dit avant, que les points seront divisés par deux, on parlera du classement un peu plus tard, mais ils vont être tout proches, sans doute, de leurs voisins unionistes. Et ils sont vraiment en mesure de jouer le titre.
Ils font ce qu'ils ont à faire. Et autant de victoires consécutives et certainement un enchaînement de matchs sans défaite depuis octobre. Ça ne leur est pas arrivé depuis 10 ans. Donc, Et tout le monde est content dans la maison Mauve. Maintenant, il faut voir, est-ce qu'ils savent aller au bout? Est-ce que l'osmose dans l'équipe est là? Parce que allez, on sait très bien, il y a eu l'épisode Schmeichel Dupé, il y a eu le questionnement sur Thorgan Hazard, il y a eu le questionnement sur Rimmer, et finalement, tous ces feux de paille se repartent aussi vite qu'ils ont été allumés. Mais je pense que la victoire à Bruges il y a quelques semaines leur a fait énormément de bien, leur a donné un boost de confiance gigantesque.
Oui, c'est vrai. J'ai l'impression que les incertitudes de début de saison, tu en parlais, que ce soit Schmeichel, que ce soit Thorgan Hazard qui revenait, Dolberg aussi, la colonie danoise, tout ça semble s'être plutôt bien mis en place. Puis, par exemple, Jari Verskaren qui était blessé de longue date, qui est revenu, qui semble reprendre le rythme de sa progression. Léonie, qu'on avait découvert en tout début de saison, qui était excellent. Vertonghen, qui assure vraiment de manière assez formidable avec Zino De Bast en défense centrale. J'ai l'impression qu'effectivement, on est sur une équipe qui est plutôt dans la stabilité, à trouver une stabilité. Comme tu le dis, tout ça ne vaudra que s'ils sont champions. Non, et la saison, elle sera tout de même réussie, à condition bien sûr de ne pas s'écrouler pendant le play-off, mais de convoiter, d'être en mesure de jouer le titre.
Disons qu'ils ont construit une équipe avec des bases solides pour jouer le top du classement. Dans chaque ligne, tu as l'expérience, tu as la jeunesse, tu as le talent, tu sais tirer loin, tu sais mettre des têtes, tu sais presser sur la défense, tu sais jouer de manière un peu plus frivole. Donc tu as tous ces bagages-là, mais personnellement, je trouve qu'ils n'ont pas de flanc qui s'est percé.
Oui.
Ça, c'est le seul bémol que je trouve dans cette équipe d'Anderlecht. Après, est-ce qu'ils peuvent aller au bout? Oui, je pense bien, parce que les play-offs se jouent au 50% au mental. Tu as énormément de mental et du côté de l'Union, on sait ce qui s'est passé les deux dernières années. Et déjà aujourd'hui, après le match nul de hier, on reviendra sur l'Union après, j'imagine.
Ouais.
Il y a du questionnement.
On peut enchaîner d'ailleurs.
On peut enchaîner, mais il y a du questionnement. Il y a l'Antwerp qui a déclaré, pas plus tard que ce week-end aussi, on bat l'Union lors du dernier match, on est virtuellement plus qu'à 7 points. On se donne à fond, les play-offs, ça peut être pour nous aussi. Je ne pense pas, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont dit.
C'est ce qu'ils ont dit. Effectivement, on se souvient de l'épilogue de la saison passée, où tout s'était joué dans la dernière minute du dernier match. Et c'est vrai, on le rappelle, c'est tellement important. Mais les points étant divisés par deux, ce qui peut apparaître comme un gouffre au classement aujourd'hui, ne l'est plus tant que ça. Et comme tu l'as dit, ça se joue beaucoup au mental. Et vous n'avez plus, quand vous êtes dans une phase de play-off, vous n'avez plus la possibilité, vous n'avez plus de match facile. Je dirais que quand vous avez normalement.
À voir qui se qualifie, parce que ça, c'est encore la dernière partie très intéressante.
Mais quand on enchaîne, je ne sais pas moi, quand vous êtes. Vous pouvez enchaîner comme Anderlecht, ça va être le cas. RWDM maintenant, Courtrai la semaine prochaine, même si Courtrai pose des difficultés, tu me l'as dit un peu hors antenne, au gros du championnat. Voilà des matchs qui paraissent en tout cas un peu plus faciles que lorsque vous avez à enchaîner l'Union Saint-Gilloise, l'Antwerp et le club de Bruges en 3 semaines. Donc ça peut vite aller dans tous les. On peut tomber dans une spirale négative et au contraire, mentalement, si tout se passe bien, on peut aussi enchaîner les victoires et remonter rapidement au classement. L'Union Saint-Gilloise, justement, toujours première au classement, mais qui n'a pu faire mieux qu'un but partout face à la Gantoise. Un but partout, ils ont concédé, ils ont égalisé par Castro Montes. Ils semblent tirer un petit peu la langue. Ils n'ont plus que 6 points d'avance. Et c'est vrai que je disais que Anderlecht a gagné, reste sur 6 victoires consécutives. Je regardais sur les 6 derniers matchs, l'Union Saint-Gilloise, c'est loin d'être catastrophique. Rappelons qu'ils n'ont perdu que 2 fois cette saison. Sur les 6 derniers matchs, ils ont 4 victoires, 2 matchs nuls. Et ben, ça fait 14 points là où les autres en ont 18. S'il y a 4 points de différence, ben, ils étaient à 10 points d'avance, ce qui faisait 5 quand on divise. Maintenant, ils sont plus que 3 points. C'est donc une victoire seulement qui ramène en play-off. Victoire d'Anderlecht sur l'Union et les deux équipes seraient à égalité.
Mais le danger de 6 points actuellement est que tu peux te retrouver à plus 9 dans 5 jours, comme tu peux te retrouver qu'à plus 3.
C'est ça.
Et tu as quand même un monde de différence.
Tu as un monde de différence et on va parler...
Pareil pour la première journée des playoffs. Si maintenant tu restes à 6 points entre les deux équipes et que tu commences ce mini-championnat, après 2 jours, tu peux être ex-aequo. Et c'est ce que je pense que c'est Bruges qui l'a connu il y a quelques années.
Ouais, ouais non, c'est, ça change la dynamique. Et c'est vrai qu'en ça, c'est une bonne... Il n'y a que pour les équipes qui vont rester hackées. Il y a des équipes qui auront fini leur championnat, des joueurs qui vont trouver le temps long. Ceux qui sont
il y a des play-offs supplémentaires hein, pour les autres équipes.
Pour les autres équipes, il y aura des classements, tout le monde va jouer. Mais c'est vrai que c'est peut-être un peu moins engageant, un peu moins quand vous n'avez pas grand-chose, il y a de la prime. Quoi.
Mais la question est surtout, qui seront les deux derniers participants au play-off 1 ? Donc l'Union a validé son ticket il y a longtemps, Anderlecht aussi, Bruges l'a fait ce week-end, même si c'était pour moi déjà acté depuis plus longtemps aussi.
Alors parlons justement...
L'Antwerp aussi, et puis il y a 4 équipes.
Voilà, celle-là, on va en parler. Avant ça, je voudrais qu'on parle de Bruges, parce qu'on aime bien parler de Bruges, on aime bien, dans cette émission, dire quand ça va bien, mais aussi quand ça va mal, parce que parfois, ça et souvent, ça va mal en même temps que ça va bien, en tout cas cette saison. Pour le club de Bruges, qui s'est fait peur, qui l'a emporté néanmoins 3-1. J'ai revu le résumé, ils peuvent dire merci à plusieurs personnes. Ils peuvent dire merci d'abord aux attaquants de HL, parce que mon Belge de la semaine a failli être islandais. C'est Thorsteinsson qui a donné 3 ou 4 assists. Normalement, ça doit être des assists. Il en a donné un sur le corner. Mais il a fait 3 ou 4 excellents centres venus de son côté gauche et qui ont été vraiment, vraiment galvaudés par les attaquants. Et ça aurait pu faire... c'était notamment à 0-0. Donc, ils auraient pu prendre un avantage conséquent. Ils doivent dire merci aussi à Leisen, le gardien de HL, qui, sur les 3 buts encaissés, notamment sur le premier...
Toutes les autres équipes peuvent remercier Mignolet et sa défense, les 6 derniers matchs aussi.
C'est vrai, non, mais je parle de ce match-là, où là, sur les 3 buts, il est fautif.
Et les adversaires sont généreux face à Bruges.
Tout le monde est... Voilà, on est dans la générosité. Par contre, il y en a un qui n'a pas été très généreux, c'est l'arbitre du match, le troisième, à qui donner raison, à qui ils peuvent dire merci, dans le sens où, pour moi, il oublie un pénalty sur Scrivers à la 47e minute, donc additionnel de la première. Il touche le ballon, mais il va tellement fort que...
Il touche d'abord le ballon parce que le ballon change de direction directement. Donc,
c'est vrai.
Tu touches d'abord le ballon, puis le joueur, c'est dans les règles d'art, il n'y a pas pénalty.
Ouais, ça n'a même pas été revu par le VAR, mais disons qu'il n'y a pas pénalty. Mais disons que c'est toujours le même débat. C'est en ça que c'est énervant.
Mais non, c'est facile.
Le VAR. Non, mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres terrains sur lesquels on aurait peut-être regardé au VAR. Mais tu as raison sur le... Ça va très vite. Ils ont vu au VAR.
Il y a 10 ans, on te donnait pénalty.
Voilà. On va dire que c'est en tout cas celui à qui ils ont le moins à dire merci. Il a été excellent d'ailleurs parce que sur le but de Van Aken, le coup franc, il y a une faute où l'attaquant, je ne sais plus qui est le joueur brugeois, a lancé en profondeur. Il y a une faute avant l'entrée dans la surface. On sent qu'il est en train de tomber, qu'il voit qu'il est dans la surface et il se laisse tomber en espérant peut-être avoir le pénalty. Mais là, l'arbitre a été excellent.
C'est bien. Il commence un peu à avoir cette mentalité fourbe. Parce que là, il y a plusieurs matchs, Joudgla, on fait une faute sur lui, il essaie encore de rester debout, ce qui est tout à fait débile.
Ouais,
donc cette attitude vient un peu, et c'est trop tard presque, mais bon, au moins elle arrive. Donc,
voilà, et Van Aken a mis un super... super coup franc.
Ça faisait longtemps.
Ça faisait longtemps, c'est vrai qu'on
une hirondelle ne fait pas le printemps, certainement maintenant. Et voilà, ça reste. Le jeu reste pauvre, le vestiaire reste malade, le management reste absent. Je crois que tu dois faire une émission complète sur Bruges pendant la trêve pour expliquer tous les problèmes, parce qu'il n'y a que ça. Et voilà, effectivement, tu peux remercier Tobel Leisen qui a fait une connerie sur le premier, sur le deuxième et le troisième but. Tant mieux, Bruges n'encaisse pas à la dernière seconde pour une fois, donc c'est de bon augure peut-être pour la suite.
C'est vrai, mais toujours est-il que le club de Bruges a repris sa troisième place, puisqu'il l'avait cédé en début, puisque l'Antwerp jouait avant, et l'Antwerp l'a emporté 1-0-1 à Courtrai, qui est dernier, mais qui pose des difficultés, donc le champion en titre a réussi à enchaîner une deuxième victoire consécutive. Ils sont à 51 points, tout comme le club de Bruges. C'est vrai que, tu le disais, il va y avoir un match l'Antwerp contre l'Union Saint-Gilloise. Là, à l'heure où on parle, ils ont 18 points de retard. C'est beaucoup. Mais effectivement, si en cas de victoire, La semaine prochaine, il n'en aurait plus que 15, divisé par 2, ça fait plus que 7 points, et ce sera 7 points, et en cas d'égalité entre les deux équipes, c'est celui qui aura eu le demi-point retiré qui serait champion. On n'en est pas là, mais ça peut aller très vite. En tout cas, ces quatre équipes, comme tu l'as dit, l'Union Saint-Gilloise, Anderlecht, le Club de Bruges et l'Antwerp, sont d'ores et déjà qualifiés. L'Union finira première, Anderlecht finira deuxième. La troisième place se jouera entre les deux équipes. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le nombre de points. Mais par contre, et là, on rentre dans la zone d'indécision, celle qui concerne quatre équipes qui se tiennent en deux points. Et on va avoir une dernière journée, de ce point de vue-là, assez intéressante. On va commencer par Genk. Genk qui jouait face au Standard samedi. Standard qui a été proche de ses mauvaises habitudes. Ils ont eu quelques sursauts cette saison, mais ça a été assez apathique, assez mauvais, on va le dire. Ils auraient pu encaisser beaucoup plus. Ils ont encaissé qu'un but grâce à l'ancien Anderlechtois Aitelaj. Mais ils auraient pu encaisser plus. Genk se replace. On sait qu'ils ont parfois des bonnes séquences. Ils avaient perdu la semaine passée, lors de la dernière journée, pardon. C'est une bonne chose de l'avoir emporté, surtout que ça revient derrière. Mais on va en parler avec Maline. Mais Genk, est-ce que tu as un petit...
Mais Genk n'était pas bien occupé. Ils se retrouvent de nouveau en lice. Ils ont quand même perdu 0-3 face à Bruges. C'est quelque chose que je n'ai pas vu arriver souvent dans ma vie, surtout à domicile. Mais en attendant, Genk y est. Donc, je pense que le match à Westerlo, qui est complètement à la dérive en fin de saison, je pense que Genk peut encore aller chercher ses 3 points et valider son ticket. Maintenant, c'est ce qu'il y a derrière qui est très intéressant. Et on se rappelle l'année passée, Gand a loupé les playoffs par une défaite 1-2 face à Ostende à domicile, qui était déjà relégué.
C'est ça. Et c'est vraiment l'équipe, on en a un petit peu parlé, parce qu'on a parlé de la Gantoise, c'est l'équipe qui paraît la plus à la dérive, puisqu'ils ont une seule victoire ils ont 5 points sur les 5 derniers matchs. Ça avance plus du tout. Ils ont été donc dépassés par le Cercle de Bruges. Ça, c'était déjà le cas, puisque le Cercle de Bruges fait une belle saison. Et pour le moment, ils sont aux portes de ce play-off. En revanche, ils ont été surtout dépassés par Malines, qui est vraiment, avec Anderlecht, l'équipe en forme. 4 victoires consécutives pour les Malinois. Ils ont chippé la 5e place. Ils sont passés devant la Gantoise et le Cercle de Bruges. Une victoire 3-1 en ouverture de cette journée de championnat. Face à Westerlo, comme tu le disais, un peu à la dérive, même beaucoup à la dérive. Et ils semblent particulièrement forts. Le Cercle de Bruges, lui, n'a pu faire mieux que 0-0 lors de son déplacement à Charleroi. Et ce qui fait qu'au classement, on est actuellement, donc, ces 4 équipes concernées par les 2 dernières places, ce qui veut donc dire que 2 équipes ne participeront pas à ce play-off. On a Genk qui a 46 points, Malines 45, et le Cercle de Bruges et la Gantoise, 44 chacun. Alors, je te propose qu'on regarde, on jette un œil sur les rendez-vous de chacun. Le Cercle de Bruges recevra le RWDM. Genk se déplacera à Westerlo. Et les deux autres, donc deux équipes dont le sort est déjà plutôt connu, c'est-à-dire que le RWDM jouera le play-down. Westerlo, comme tu le disais, à la dérive, mais qui a peu de chances de se faire rattraper.
Mais attention, c'est pas parce que tu joues le play-down que ton sort est scellé, parce que les points restent identiques. Donc, par exemple, si le RWDM gagne encore 3 points, ça veut dire que potentiellement, ils mettent Courtrai 3 points plus loin. N'est pas du tout négligeable, cette dernière journée. Elle est ultra importante pour le RWDM, pour tout le monde. Tu vas me dire Saint-Tron, Standard, Westerlo, ils n'en ont plus grand-chose à foutre. Ok, d'accord. Ceux qui jouent les play-offs 1 et les play-down, pour eux, c'est très important.
Cela dit, je regardais, est-ce qu'ils peuvent, ils n'ont pas une chance encore, Westerlo, de descendre,
parce qu'ils sont 20. Non, c'est impossible. Non. Ouais. Oui, ok, si. Mais il y a quand même de très drôles de choses qui doivent se passer.
Oui, c'est ça.
Pour Westerlo que pour Charleroi. Il faut qu'OHL gagne 3-4-5-0 et que Westerlo perde aussi et que Charleroi perde en même temps.
C'est ça.
Par un score moins lourd que Westerlo. Je pense que non, pour Westerlo, c'est quasi impossible.
Oui, en fait, OHL et Charleroi
Charleroi doit prendre des points, Westerlo doit perdre par 3-4-0 et OHL doit gagner par 3-4-0. Et là, il y a moyen.
Ouais, ils auront une des difficultés à passer, mais c'est vrai qu'OHL a encore un petit espoir de ne pas jouer le play-down. Ils recevront Malines. Malines qui, on le sait, on vient de le dire, est sur une sacrée vague. 4 victoires consécutives. C'est l'invité surprise de cette potentiellement de ce play-off avec le Cercle de Bruges. En tout cas, ça fait pas partie des 6 équipes qu'on aurait vues nécessairement à ce stade-là de la compétition, à une journée en tout cas de la fin de la phase classique.
Mais écoute, moi je pense que Genk et le Cercle de Bruges participeront.
Ouais.
Et ça va être un casse-tête pour le manager du calendrier, pour les deux Bruges en play-off 1, mais oui.
Ah, tu ne penses pas que Malines va réussir à... Parce que Malines doit simplement faire mieux que le Cercle de Bruges et la Gantoise.
Ah, je sais très bien, mais je...
Donc,
pour raison X, Y, Z, je ne les vois pas gagner à Oulouvain.
C'est ça. Ils peuvent aussi être tout sautés au moment de rentrer le...
Il y a de toute façon une équipe qui va se casser la gueule dans un des scénarios possibles qu'on a évoqués. Donc, que ce soit Malines, que ce soit Genk, que ce soit le Cercle, que ce soit OHL, Westerlo, Charleroi, il y a une équipe qui va de toute façon faire une contre-performance et je m'attends à ce que ce soit Malines, mais je peux me tromper.
Au niveau
ils
des.
Ils ne peuvent pas acheter des cuisines chaque année non plus, on se rappelle en 2017 ou en 2016-2017 plutôt.
Rappelle-nous.
Ce qui s'est passé avec Beveren et la lutte contre la relégation. Donc, les yeux sont rivés.
On sera très attentifs. Au niveau du classement des buteurs, on a été dans un statu quo. C'est Denki qui va être meilleur buteur, en tout cas de la phase classique, à moins qu'Amoura, mais il est un petit peu en baisse de forme depuis peut-être le...
Amoura est moins piquant.
Waouh, magnifique. Il n'a pas eu une offre de Dijon. Il faudrait que Dijon
c'est
soit déjà
national,
là. Voilà. Denki, 22 buts. Amoura, 17. Thiago, qui ne jouait pas, qui n'était pas disponible, parce qu'il manque quand même pas mal de monde en ce moment à Bruges. Hein.
Tout le monde revient tout doucement.
Tout le monde va revenir. Ça va être parfait pour aborder les playoffs. Au niveau des passes décisives, c'est Puertas qui en est à 13. Et donc, pour le play-down, on en parlait. Seul OHL pourrait encore potentiellement s'en sortir si on en croit Alex.
C'est pas Alex, c'est les statistiques.
Non, mais qui ne voit pas Malines se qualifier, ça voudrait dire que les Louvainistes ont peut-être une chance à minima de faire match nul et qui sait de l'emporter. Mais dans ce cas-là, il faudrait que Charleroi ne marque pas de points à la Gantoise qui est à la dérive. Ça paraît mal embarqué. Mais pourquoi pas ? Eh ben, je crois qu'on a été complet sur cette. Sur cette 29e journée, les autres matchs, on va quand même les donner la semaine prochaine. On a un Anderlecht-Courtrai, on a l'Antwerp contre l'Union Saint-Gilloise et le club de Bruges se déplacera à Saint-Tron.
Traditionnellement, le dernier match de la saison.
Ouais, et ben,
ça arrive souvent.
Ça arrive souvent. Mmh. Et c'est vrai que, comme tu le disais pour le manager du calendrier, on pourrait avoir quelque chose d'assez... On pourra avoir les deux Bruges et deux clubs, ça c'est sûr, deux clubs bruxellois, mais avec les deux Bruges, Genk.
Et deux clubs de province.
Oui, voilà. Bon, mais voilà pour la première ligue, la Jupiler Pro League. Après la Jupiler Pro League et après le football, on va prendre une petite respiration et on va parler un petit peu de quoi on va parler. Tu nous l'as dit, on va te laisser nous développer tout ça. C'est le moment de la minute Sportimize. Alex, tu nous en disais quelques mots en présentation de cette émission. On va parler basket et on va aller sur la côte ouest des États-Unis.
On va aller à Los Angeles. Et à Los Angeles, il y a les Lakers, comme on a dit, mais il y a aussi les LA Clippers qui jouent à Los Angeles depuis fin des années 70. Car on sait, aux États-Unis, les franchises peuvent se déplacer de ville en ville ou d'État en État. Mais ce que je trouvais particulier avec l'annonce des Clippers qui date de la semaine dernière, c'est que d'habitude, le football européen, qu'on considère comme le vieux football, prends exemple sur ce qui se fait en termes de marketing sportif aux États-Unis. Tu l'as évoqué là tout à l'heure, les droits TV par exemple, les activations de sponsors, tout ce qui gravite autour est souvent copié par l'UEFA ou par les instances européennes sur le modèle américain. Et pour une fois, les Clippers, eux, copient le modèle européen aux États-Unis.
Ah.
Je m'explique. Il y a une nouvelle arène, donc l'Inuit Dome, qui est à 99% construit maintenant du côté de LA. Et dans ce dôme, les Clippers voulaient créer une ambiance phénoménale. Et pour cela, ils ont pris l'exemple de Dortmund. Donc, dans la salle qui pourra accueillir 18 000 personnes, tu auras une tribune derrière l'anneau, en l'occurrence, qui sera dédiée à des fervents supporters, comme à Dortmund. Donc, vraiment créer un mur, créer cette ambiance de malade. Et donc, ils vont chercher la sauce à Dortmund. On le savait déjà, parce que c'est pas nouveau. Mais maintenant, les Clippers ont également fait un rebranding de leur logo.
Qui était un petit peu vieillissant.
Peut-être. Mais ça,
donc ils ont...
on aime bien dans le foot les vieux logos parce que c'est la tradition. Mais ici, il y a eu la conférence de presse et le management des Clippers l'a avoué. Pour notre rebranding, on a juste pris exemple sur le Paris Saint-Germain. Parce qu'au PSG, déjà, tu as trois belles couleurs qui s'associent très bien, c'est-à-dire le bleu marine, le rouge et le blanc. Mais aussi sur le logo qui a été créé en 1970. Mais d'après le management des Clippers, le logo du PSG ne reflète pas le football. Et donc, c'est du lifestyle. Et c'est pour ça que ça se vend si bien. C'est pour ça que le PSG vend des maillots, du merchandising un peu partout au monde et qu'ils ont créé et ouvert des fanshops à Londres, à Tokyo, à Doha, aux États-Unis, partout. Et d'ailleurs, ils ont ouvert un fanshop à Séoul ce week-end. Et c'est pour ça que le PSG jouait contre Reims avec un flocage coréen et des fleurs dans son dos. Mais ici, les Clippers prennent donc exemple sur le PSG. Ils auront un troisième maillot Jordan. Et surtout, ils veulent créer cette collection de lifestyle. Ils veulent conquérir le monde comme l'a fait le PSG. Donc, deux exemples de NBA qui ont puisé dans le football européen. C'est très important et je le souligne.
Eh ben, tout à fait. C'est intéressant de voir qu'effectivement, tout n'est pas acheté de ce côté-ci de l'Atlantique et que c'est du côté de l'Europe que les Clippers se sont inspirés. Merci pour cette minute Sportimize. Je vais ajouter juste une chose. En plus, le Paris Saint-Germain, le maillot du Paris Saint-Germain, comme tu le dis, il n'est pas... Il n'y a aucun lien avec le football, puisqu'on y voit la Tour Eiffel. Avant, on y voyait le berceau du roi et la fleur de lys. Ça a été un petit peu gommé. Et le maillot en lui-même, il a été designé par Daniel Echter, en personne, le couturier français qui est à l'origine de la création du club. Et c'est vrai qu'il paraît simple comme ça, mais il est très apprécié avec ses couleurs bleu, blanc et rouge. Et on a eu beau le changer. Il reste souvent, il est souvent imité, rarement égalé. Merci pour cette minute Sportimize. Eh bien, on va rester. Du coup, tu nous as fait voyager aux États-Unis, mais en passant, revenant par l'Europe, la vieille Europe. Eh bien, on va rester en Europe pour parler Coupe d'Europe maintenant. Pour parler Coupe d'Europe, puisque on le sait, on joue cette semaine les quatre derniers matchs de Ligue des Champions, des huitièmes de finale, retour de Ligue des Champions. On le sait, l'UEFA, comme on le disait en ouverture de cette émission, aime bien dispatcher tous ces matchs sur plusieurs journées. C'est bien, ça nous permet à nous de pouvoir regarder beaucoup de foot en direct. Plusieurs semaines d'affilée. On rappelle que les clubs qui se sont qualifiés lors des matchs de la semaine passée sont le Bayern Munich qui l'a emporté 3-0 face à la Lazio, le Paris Saint-Germain qui l'a emporté 1-2 à San Sebastian contre la Real Sociedad, le Real Madrid qui s'en est sorti après une sans réelle maîtrise, un but partout à domicile face au RB Leipzig, et enfin Manchester City qui l'avait emporté et qui l'a emporté 3-1. Même score que le match aller face à Copenhague. Voilà donc 4 clubs qualifiés, 4 autres en attente. Et on commencera demain par 2 superbes affiches, Arsenal-Porto et Barcelone-Naples. Alors, petite stat intéressant, depuis, je ne me souviens plus exactement, mais en tout cas, il me semble que les cinq dernières équipes qui ont éliminé Porto en huitième de finale ont toutes atteint la finale de la Ligue des Champions. Alors, elles n'ont pas toutes gagné. Est-ce que c'est une bonne...
On a vraiment loupé le coche avec Bruges en gagnant 0-4 là-bas l'autre fois.
Est-ce que c'est de bonne augure pour Arsenal? En tout cas, Arsenal s'était fait battre 1-0 face à Porto lors du match aller. Ils ont leur revanche à prendre demain à l'Emirates Stadium, demain à 21h. Est-ce que tu penses que ils vont... Arsenal, qui, comme on l'a évoqué, est en tête de Première Ligue, est-ce que tu penses qu'ils vont réussir à passer ce piège, l'écueil, huitième de finale?
Disons que le 1-0 de Porto est venu très tard aussi, ouais, dans le match aller. Donc, oui, bah, je t'avoue que je m'en fous en fait qu'il passe.
Ouais, c'est pas, ni l'un ni l'autre ont une tête de vainqueur de Ligue des Champions.
Si je devais regarder un match demain, je regarderais Barcelone.
Et voilà. Barcelone.
Ça pue le foot, mais... Entre Arsenal et Porto, j'en ai strictement rien à faire.
Alors justement, Barcelone-Naples, on avait dit la semaine passée que c'était les buteurs. Enfin, on l'avait pas dit, mais c'était les... Et puis c'était pas la semaine passée. Donc il y a rien de bon dans ma phrase. C'était les buteurs qui avaient fait régner l'ordre. Lewandowski, Osimhen avaient permis à leurs équipes respectives de marquer. Les deux équipes vont se retrouver à Barcelone. Ça fait longtemps qu'on l'a pas dit. C'est le Maradonatico. Deux clubs européens, deux des clubs européens dans lesquels Diego a joué. Barcelone reçoit Naples. C'est curieux, non, d'avoir une équipe dont on sait qu'elle va se séparer de son entraîneur Xavi à la fin de la saison, qui est quand même en passe de peut-être se qualifier pour les quarts de finale et qui sait faire une bonne fin de saison européenne. Quand je dis curieux, je pense aussi au Bayern. Parce que ça me permet de...
Bayern, ça peut soulager. Hein.
Ouais, on a annoncé que Tuchel, en gros, était vraiment sur un siège éjectable. Et depuis, ils enchaînent les victoires. Ils ont fait un 8-1 ce week-end. Alors, c'est toujours... c'est le Bayern. Mais en fait, c'est quand le Bayern enchaîne des matchs sans... enfin, des séries sans écart de score comme celui-là, que les choses ne sont pas normales. La 8-1, c'est quand même une sacrée
claque. Mayence en face, qui est dans la pire période des 20 dernières années aussi.
Mais ça
peut soulager un groupe d'avoir un entraîneur qui dit, voilà, à la fin de saison, c'est fini. Ça soulage le banc en se disant, bon, OK, on va foutre la merde. Ça soulage aussi sur le terrain pour une pression quelconque qu'ils auraient pu avoir. Donc, on le voit, en changeant d'entraîneur, tu changes de un peu de tactique, de stratégie, de mentalité, et ça, généralement, ça fonctionne bien. Donc,
c'est pas mal.
À part au RUDM, ça fonctionne bien. Mais,
en fait, c'est ça, c'est la stratégie du...
À part à Bruges aussi, hein, pour une mauvaise blague sur la RUDM. Bruges a changé d'entraîneur, c'est encore pire qu'avant. Donc
c'est la stratégie du « on change d'entraîneur, mais on change pas d'entraîneur ». Enfin, pas maintenant. On changera plus tard, et on espère
ça
les effets psychologiques
Ça tue tous les doutes.
Et donc, pour toi, ils vont se qualifier demain contre Naples?
Oui, je pense, parce que c'est quand même Naples n'est pas dans sa meilleure saison. Bon, quand tu prends Rudy Garcia, tu le sais d'avance. C'est pas la meilleure saison. Donc, je pense que Barcelone peut se qualifier, effectivement. Mais je pense que tu regarderas d'autres matchs cette semaine. Ah non, c'est mercredi, pardon. Tu regardes un autre match.
La
Ligue des Champions du PSG en Coupe de France.
Coupe de France ? Non. Mercredi, j'aurai l'œil rivé sur un autre match. Je serai au Wanda Stadium, enfin en tout cas au Wanda Metropolitan. Non, je serai devant ma télévision, mais avec le allumé, pour regarder plutôt l'Atlético. Voilà, merci. Pour regarder Atlético Madrid-Inter, victoire de l'Inter 1-0 au match aller. Ça plutôt que Dortmund, même si on le sait, c'est le Signal Iduna Stadion, la plus belle ambiance, une des plus belles ambiances d'Europe, en tout cas un gelbe Welt, le mur jaune, qui, comme tu nous l'as dit, a inspiré les Clippers. Les Allemands recevront le PSV Eindhoven. C'est le Arsenal Porto du mercredi. Match dont on... moins intéressant qu'Atlético Inter. Je vais être vraiment curieux, moi, d'Atlético Inter. L'Inter marche sur l'Italie actuellement. Ils sont vraiment en avance. L'Atlético, il peine un peu, mais il y a cette niaque. C'est Diego Simeone.
Depuis qu'ils ont Arthur Vermeer.
Ouais, voilà. et ça va être quelque chose. Antoine Griezmann était blessé ces dernières semaines. Il va sans doute revenir. Et c'est à domicile. On sait que les Madrilènes, ces Madrilènes-là, ne lâchent jamais. ils ont moins de coups de pouce que les autres madrilènes, mais donc ils doivent bien, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. T'as un petit pronostic ? Pas du tout.
Pronostic, c'est très compliqué.
Il faut se mouiller, monsieur.
Je ne pronostique jamais, mais là, je ne suis pas impliqué. Donc, l'Inter pourrait se qualifier. Ce serait, tu te retrouves avec Inter, Barcelone, PSG, Bayern. Ça va être un beau carré final, je pense.
Ouais.
Enfin, carré final.
En tout cas, il y aurait de belles équipes. Pour l'instant, je vais être tout à fait franc, comme tu l'as dit, et comme nos auditeurs le savent peut-être, je suis supporter du Paris Saint-Germain. Pour le moment, les trois équipes qui sont qualifiées avec le Paris Saint-Germain me paraissent largement au-dessus du PSG. Mais on a déjà vu des choses incroyables arriver. Mais enfin, je ne pense pas que ce soit encore pour cette saison que le Paris Saint-Germain soulèvera la coupe aux grandes oreilles, même pour la tournée d'adieu de Kylian Mbappé. On va passer maintenant aux autres Coupes d'Europe. Et notamment, ça nous donnera justement l'occasion de parler de tes vacances. On va passer à la Conference League. Conference League dans laquelle deux clubs belges sont concernés. Autant l'Union fait un championnat assez remarquable, autant ils ont fait également une phase de poule assez formidable. On va pas dire le contraire. Ils avaient à jouer Liverpool, l'Eintracht Francfort, ils se sont qualifiés. Et là, par contre, ils ont pris une claque assez monumentale puisqu'ils ont perdu 0-3 à domicile face à Fenerbahçe. Et donc le match retour va être disputé ce jeudi à 18h45 à Fenerbahçe, au Ulker Fenerbahçe Sucru Saracoglu Stadion.
Tes souhaits.
Merci. Ça va être un peu compliqué, ça va être très compliqué même pour l'Union Saint-Gilloise.
Mais je n'ai pas vu le match aller parce que j'étais focus sur un autre match. Bizarrement. Bruges. Mais oui, quand tu perds 0-3 à domicile.
Ouais. Et ce serait peut-être.
J'ai du mal à m'imaginer une équipe qui a perdu 0-3 à domicile et qui a encore réussi à renverser la vapeur 0-4 à l'extérieur par après. Donc je pense que c'est chaud. Je connais des 4-0 à domicile qui sont transformés
en 6-1, moi aussi. Je ne veux pas en entendre.
6-1, mais voilà, ça c'est.
C'est autre chose.
C'est une des pires soirées de ta vie.
Mais il faut avoir un bon arbitre pour ça, pour l'emporter 6-1.
Mais non, toujours est-il, voilà, tu perds 0-3 à domicile, je pense que c'est cuit, ils le savent très bien, ils sont crevés, fatigués, leur langue traîne par terre. Donc,
Est-ce que tu penses que.
Déjà un long déplacement aussi en Turquie, ouais. C'est jamais facile.
Est-ce que tu penses que psychologiquement, ils ont déjà acté le fait d'être éliminés potentiellement ? Ce que je veux dire par là, c'est quand tu as une fin de saison qui se déroule comme elle se déroule actuellement avec un Anderlecht qui revient sur toi en championnat, que tu as pris une claque comme celle-là face à Fenerbahçe, est-ce que tu penses qu'il est possible qu'ils aient déjà acté ça et qu'ils se disent finalement on va jouer le match en faisant le mieux possible, on va pas prendre une claque parce que là psychologiquement ça peut être dur, mais c'est peut-être un mal pour un bien de se faire éliminer à ce stade-là de la compétition s'ils nourrissent des ambitions.
Je pense que dans chaque équipe en Conference League se dit tant qu'on ne joue pas Aston Villa, on est tranquille.
Ouais.
Donc finalement, tu joues Fenerbahçe, c'est pas facile, au même titre que Molde, que Lille, que Fiorentina, et des équipes comme ça. Mais je pense que tu pars avec une mentalité, bon, on va essayer de jouer notre match, on va essayer de ne pas perdre, etc. Et après, la physionomie du match, si ça se trouve, après 3 minutes, tu as un joueur rapide qui file vers le but, l'autre équipe se prend une rouge, pénalty, c'est 0-1. Tu tombes directement dans un tout autre cas de figure où tu dois te réadapter complètement à ta situation. Donc tu ne pars jamais à un match, tu ne débutes jamais un match où tu ne pars jamais en déplacement pour te dire on va essayer de ne pas perdre trop fort. Donc c'est pas ça la mentalité, c'est on va essayer de faire un bon résultat, on verra. Mais les chances sont quand même très minimes, il y a quand même un concours de circonstances énorme qui doit se passer.
Ouais, c'est pas du tout le cas en revanche.
Mais victoire 1-2, c'est très bien pour le football belge aussi. Hein.
Ouais, c'est vrai qu'on rappelle qu'il y a le coefficient UEFA qui est impacté par chaque résultat des clubs. L'autre club belge qui est concerné, c'est Bruges, qui a été défait en Norvège à Molde 2 de Buzyn lors du match aller. On va donc se retrouver au Jan Breidel Stadion pour une victoire. Il faudra l'emporter par 2 buts d'écart. On ne va pas revenir tous les ans sur le fait qu'il n'y a plus le
faudra,
truc.
Voilà. Mais tu dois revenir ou tu dois marquer 2 buts d'écart ou tu dois gagner par 2 buts d'écart parce que tu as t'en avais rien à foutre de ton match aller. Et quand tu joues à Molde, ok, il fait froid, ok, c'est loin, ok, il faut prendre trois avions pour arriver, ok, c'est en Norvège, ok, tout ce qu'on veut. Mais tu joues pour un quart de finale de Coupe d'Europe face à une équipe de...
qui est en vacances, qui a pas dû beaucoup jouer.
Qui joue pas beaucoup, ouais. Qui m'occupe. Mais oui, mais.
Mais c'est assez symptomatique.
Tu joues contre n'importe quel pays de Scandinavie, tu dois pouvoir gagner ton match.
Désolé, c'est assez symptomatique des Blauwenzwart cette saison, hein, un petit peu ce côté. On l'a vu à d'autres moments.
Ça fait 3 ans qu'ils n'ont rien à foutre. Mais là, tu joues quand même pour un quart de finale en Coupe d'Europe.
Ah ouais, c'est vrai.
C'est pas n'importe quoi. Et si sur un malentendu, dans ce quart de finale, tu vas choper une Servette de Genève ou un truc comme ça, tu te retrouves en demi-finale de Coupe d'Europe. Il n'y a pas beaucoup de joueurs présents à Bruges et certainement pas les Mechelen qui vont revivre ça. Donc, où est la motivation qu'on leur foute un coup de pied au cul immense et qui fasse quelque chose ce jeudi? Tu as battu Osasuna, tu as passé Besiktas, tu as quand même... accompli quelque chose, c'est pas pour être éliminé par Molde. Fin...
C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. On va parler de tes vacances maintenant. On va parler de tes vacances puisque je crois que tu es allé en Italie. Il y a justement un match qui va concerner une équipe italienne ce jeudi. C'est l'équipe que tu es allé voir, c'est la Fiorentina. La Fiorentina qui l'a emporté 3-4 face au Maccabi Haifa jeudi dernier. Toi, tu as vu quel match en Italie ?
La Fiorentina a affronté la Lazio lundi soir. Et donc, quand l'avion est très bon marché, aller-retour, je me dis c'est toujours sympa de faire un petit tour par là. Et surtout, en fait, le stade Artemio Franchi de la Fiorentina a été construit pour la Coupe du Monde 1934 en Italie. Le premier match de cette Coupe du Monde, c'était Allemagne nazie contre la Belgique. C'était le premier match de Coupe du Monde de l'Allemagne de l'histoire. Mais le stade n'est pas dans son jus d'époque, il a été rénové, mais la structure est la même qu'à l'époque. Et donc, comme ils vont bientôt soit rénover, soit construire un nouveau stade à Firenze, ils ne le savent pas encore, ils sont encore en train de se dépatouiller pour trouver quelques millions avec la municipalité. C'était l'occasion d'aller voir un match et j'avais envie de voir ce stade mythique de ce club mythique et de mon joueur favori, Batistuta. Et donc, c'est pour ça que j'ai été brièvement de ce côté-là. Et effectivement, c'est assez mythique, c'est un patchwork abominable. Avec très peu d'ambiance, car c'est un stade olympique de base, qui est très très large, qui est, je pense que les supporters, ils sont à 40 mètres du but derrière le goal, ce qui est quand même beaucoup.
Et l'ambiance, comment ?
Quand tu es proche des supporters, l'ambiance est pas mal, ils savent craquer des fumis, mais eux sont, je te dis, sur le plus haut, je pense qu'il est à 40 mètres du goal, du premier goal, donc forcément tu as 150 mètres de l'action opposée.
Wow.
Ça devient énorme. Mais voilà, c'est un stade mythique, c'est beau. J'encourage tous ceux qui veulent aller voir des matchs comme ça, de bien regarder les calendriers, parce que parfois c'est très facile. Et donc c'est sympa. Mais voilà, la Fiorentina reste une équipe mythique qu'on aime beaucoup, mais je pense qu'elle le sera encore plus dans un vrai stade moderne à son honneur.
Eh bien, elle recevra le Maccabi Haïfa, c'est jeudi. L'autre club israélien, puisqu'il y en a un deuxième qui est concerné, lui, il a fait des merveilles lors du match aller en l'emportant 1-4 face à l'Olympiakos. Et ils joueront également ce jeudi.
Et d'ailleurs, les clubs israéliens montrent, parce que tu sais pas citer 4 joueurs de ces clubs, mais à l'envie, au courage, à l'abnégation, ils font des résultats. Et quand tu vois les Bruges qui s'en foutent du tiers et du quart, c'est scandaleux. Et j'admire ces clubs qui ont cette envie, ce couteau entre les dents, et qui vont donner leur vie, sans mauvais jeu de mots, pour gagner un match de foot. Et de l'autre côté, les Brandon Mechelen, les danseuses pareil à Bruges, qui sont mauvais de match en match, qui n'en ont rien à faire. Je trouve ça scandaleux.
Le coup de gueule d'Alex, il a bien raison. L'autre match, la grosse affiche, et tu l'as dit, Aston Villa qui joue l'Ajax. En tout cas, l'Aston Villa est pareil, l'équipe la plus la favorite de cette compétition. Et rappelons, comme tu le disais, il y aura aussi des équipes, je ne vais pas dire des équipes de peintres, mais il y a des équipes un peu moins. Il y a des faciles à tirer, en tout cas des plus faciles en quart de finale. Il y a Victoria Plzeň qui joue le Servette, justement, il y a eu 0-0 à l'aller. Le PAOK Salonique qui joue Dynamo Zagreb, c'est le Zagreb l'a emporté 2-0 à l'aller. C'est vrai qu'il y a quelque chose à faire dans cette Coupe d'Europe. Lille recevra Sturm Graz, les Allemands. La ville d'Arnold Schwarzenegger, me semble-t-il, ils l'ont emporté 3-0.
Il y a vraiment quelque chose à faire. Hein.
Ouais,
parce que Fenerbahçe, Fiorentina, Lille, Ajax ou même Aston Villa. Aston Villa a pris 4-0 ce week-end face à Spurs. Hein. Ouais. C'est pas forcément, ils vont pas se qualifier si facilement. Tu peux avoir vraiment un vainqueur très surprise cette année le 29 mai à Athènes.
Ouais, ce serait une bonne. En tout cas, on va regarder tout ça. Il y a également la Ligue Europa. On en a pas parlé. Il y a pas de club belge qui est concerné. Il y a l'Olympique de Marseille qui l'a emporté 4-0 face à Villarreal.
C'est l'effet Jean-Louis Gasset.
C'est l'effet Jean-Louis Gasset, voilà. Et ou alors Marcelino a dû avoir peur de par ce lors de son retour au Vélodrome et donc il n'a pas aligné sa meilleure équipe. Je plaisante, ça nous permet aussi de faire un coucou à Blaise. Et ben voilà, on a fait le tour de la question. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle édition dont joue la prolongation. D'ici là, portez-vous bien. Salut Alex et merci beaucoup.
Salut Sam, bonne soirée à tous.
Bonne soirée.